BFM Bourse, on refait la séance.
Et d'ailleurs, si vous avez raté ce qui précédait dans l'émission, Franklin Pichard était avec nous sur les marchés pour nous parler cash des marchés et de leur potentiel. Il nous disait, sur les marchés en ce moment, c'est vraiment le calme avant la tempête, mais tempête il y aura. Tempête il y aura, c'est ce qu'il nous disait dans la Bourse Cash à 15h40. Bon, il nous a apporté ses arguments. Si vous l'avez raté, c'est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Tempête il y aura ou pas d'ailleurs? On va leur poser la question aussi à nos experts ce soir qui nous accompagnent jusqu'à 18h. Abdel Redjeb, Montségur Finance. Bonsoir Abdel.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Franck Morel depuis Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver depuis les rives du lac d'Annecy.
Bonsoir.
Tempête à venir ou pas sur les marchés? Comment est-ce que vous préparez vos portefeuilles boursiers avant les législatives, Abdel?
C'est vrai ce que disait Romain, c'est très juste. Il y a un retour de la volatilité sur les marchés qui était assez calme. On voit que la vol en Europe elle a quasi doublé depuis l'impact de la dissolution en France. Pas mal de volatilité, que ça soit intraday, c'est très difficile d'avoir de la visibilité, que ça soit sur les élections françaises ou même les élections américaines à la rentrée. Plutôt une visibilité très réduite, et on a toujours sur le fond de toile de la baisse des taux, mais quel sera le timing, puisque le timing semble assez restreint sur le reste de l'année. Et enfin, le gros catalyseur, je pense, ça sera surtout la publication des résultats d'entreprises, qui sera plutôt bonne et qui pourrait rassurer un peu les esprits. Mais en cas de mauvaise publication, là on serait dans une tempête parfaite sur les marchés, et ça risque de secouer sur les semaines qui arrivent.
Bon, et le troisième trimestre dans lequel on entre est souvent en bourse un trimestre assez incertain qui offre pas mal de surprises en termes de performance, et souvent c'est pas le meilleur trimestre d'ailleurs en termes de performance, ce troisième trimestre dans lequel on va entrer avec le mois de juillet qui approche. Franck, c'est une question que nous posent aussi régulièrement nos auditeurs et téléspectateurs à l'approche de ces législatives. C'est vraiment notre fil rouge depuis la dissolution, et on essaie de répondre, d'être très serviciel, de répondre de façon très pratique à ces questions que nos auditeurs et téléspectateurs nous envoient. Est-ce que vous voyez des valeurs malgré tout susceptibles de rebondir fortement, celles qui ont peut-être le plus souffert depuis l'annonce de la dissolution? Est-ce que c'est ces valeurs-là qu'il faut privilégier, ou au contraire, plutôt privilégier d'autres titres qui n'ont pas beaucoup réagi depuis la dissolution et qui ne réagiront pas non plus aux résultats à venir des législatives, des titres un peu immunes à la politique?
Non, alors chez Zone Bourse, en tout cas pour ma part, nous sommes très inquiets de la situation politique en France. Que ce soit à gauche ou à droite, on a des programmes qui, au niveau économique, n'ont pas un niveau de troisième. Donc on est extrêmement inquiets, et on est tout sauf confiants sur le business en France en général. Et donc on a d'ailleurs réorienté complètement notre portefeuille Europe ces derniers jours. On a sorti les 4/5 de nos sociétés françaises, et donc on suggère fortement de désinvestir les sociétés qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France, même de réduire son exposition à la monnaie unique, à l'euro, en s'intéressant par exemple aux marchés européens que sont le Royaume-Uni ou la Suisse, qui ne sont pas éligibles au PEA mais qui ont le mérite d'être dans d'autres monnaies que l'euro, puisqu'on a vraiment beaucoup de mal à être optimiste compte tenu de ce qu'on voit des derniers sondages, des programmes. Au mieux, une instabilité avec aucune majorité, ce serait reculer pour sauter probablement de plus haut. On est sous-investi sur la France, et on suggère fortement de le faire, et certainement pas, en tout cas, de faire ses courses en ce moment, et avec de nombreux secteurs qui vont sous-performer ces prochaines semaines de manière évidente, les bancaires, l'immobilier, la distribution, les valeurs cycliques, donc ça fait quand même beaucoup, et voilà, donc non, absolument pas optimiste, même pessimiste, et on s'est préparé à ce scénario au cours des derniers jours, dernières semaines.
Bon, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il est stable, on est toujours pas sur l'incendie, il y a toujours une vigilance, une pression des marchés, c'est vrai, il y a 72 points d'écart de taux aujourd'hui, 72 entre la France et l'Allemagne, mais voilà, c'est très très stable depuis plusieurs jours. On sent d'ailleurs que certains programmes, malgré tout, alors Franck, voilà, recommande la prudence, mais il y a certains programmes qui sont un peu édulcorés quand même, c'est le moins qu'on puisse dire depuis quelques jours, beaucoup d'eau dans le vin, on va le dire comme ça, ce qui peut-être participe à rassurer le marché, c'est un grand mot, mais en tout cas, éviter à ce stade l'incendie. Vous, vis-à-vis de vos clients chez Montségur, qu'est-ce que vous dites? Quels arbitrages est-ce qu'il faut réaliser dans les portefeuilles? Est-ce que, comme Franck, vous êtes très prudent et vous dites mieux vaut éviter les marchés, même hors, enfin, éviter le marché français, nous dit Franck, éviter même les marchés de la zone euro et privilégier, pourquoi pas, la Suisse ou le Royaume-Uni? Est-ce que cette idée-là vous parle? Est-ce que c'est un discours que vous pourriez tenir à vos clients, Abdel?
Elle nous parle, on a allégé notre exposition position France, mais pas totalement allégée. On reste investi sur la zone française. On a quelques beaux dossiers en faisant du stock picking qui nous paraît injustement sanctionné, comme des valeurs comme SPI, comme Soprasteria, qui ont juste un gros chiffre d'affaires en France, mais quand on regarde, c'est des boîtes très résilientes. Donc je pense qu'il y a quand même quelques valeurs à aller chercher. Il faut être attentif et analyser, prendre le temps. Je pense qu'il y a des bonnes opportunités et ne pas tout jeter. Il y a des secteurs à éviter, bien sûr, comme l'a mentionné Franck, et je partage ton analyse mêmes, dessus. Ouais. Que ça soit les bancaires, les concessions, les utilities liés à l'État, quelques secteurs très fragiles sur lesquels on s'est écarté, mais d'autres ont été injustement sanctionnés, sur lesquels on s'est renforcé.
Est-ce que les introductions en bourse vont encore se raréfier avec peut-être une instabilité politique à venir encore un peu plus forte, voilà, une incertitude économique? On verra, on n'en sait rien, on ne connaît pas le résultat législatif, tout reste possible, et puis on voit que du côté des discours et des programmes, les choses peuvent très très vite évoluer aussi, bref. Mais est-ce que les introductions en bourse avec cette incertitude vont être encore plus rares? Sanofi a lancé, d'après Bloomberg, Abdel, un appel d'offres pour la vente de son pôle santé grand public, un appel d'offres. Est-ce que ça veut dire que Sanofi pourrait choisir de ne pas introduire en bourse ce pôle santé grand public?
Exactement, ils ont ce qu'on appelle un dual track. Ils ont deux process. Ils ont un process de vente totale qui serait un grand fonds américain. C'est valorisé à peu près 20 milliards. Et le process d'introduction en bourse, donc une distribution à leurs actionnaires. Donc ils font les deux process en même temps. Et Sanofi va prendre celui-là qui a la meilleure valorisation et le moins de risque d'exécution. Le risque, c'est quoi? C'est que les fonds américains n'achètent pas puisque le coût de la dette s'est renchéri et des incertitudes un peu sur l'économie française. Surtout que ça serait le plus gros LBO de l'année en Europe. Donc 20 milliards, il faut quand même les financer. Et pour l'introduction en bourse, alors on en a une qui s'est retirée, c'était Golden Goose en Italie il y a quelques jours. Donc c'est un mauvais signal. Pourtant, on avait un très bon signal en début d'année. Donc Sanofi peut être un peu craintif. Mais je pense que la grille de lecture, c'est de se dire quel est le process le moins risqué et qui maximise la valeur. C'est comme ça que le choix sera fait et toutes les options sont sur la table aujourd'hui.
Franck, vous nous disiez de notre côté chez Zone Bourse, donc on recommande à nos lecteurs, nos investisseurs, nos abonnés le marché suisse, le marché britannique, pourquoi pas Wall Street. Est-ce que sur ces marchés-là, il y a une valeur que vous recommandez particulièrement et que vous souhaiteriez ce soir mettre en avant, Franck?
Oh ben on a beaucoup de dossiers. Alors c'est simple, aux États-Unis il faut être investi dans la tech et dans l'intelligence artificielle. Si c'est pas le cas, vous passez à côté de la vague et c'est le seul secteur où vous avez une croissance extrêmement forte du chiffre d'affaires et des bénéfices. Et c'est ce qui guide le S&P 500. Donc il vous faut obligatoirement de l'IA et donc du dollar indirectement. Je peux vous conseiller notamment Supermicro Computer qui construit des serveurs. Il en faut de plus en plus. Il en faudra de plus en plus. Quel que soit le fournisseur de cartes ou d'accélérateurs tel que Nvidia, Supermicro Computer aux US, et puis en Europe on a rentré de nombreux dossiers en Suisse et au Royaume-Uni ces derniers jours. J'ai pas de préféré parmi ces valeurs,
vous aimez bien la défense,
je pense,
notamment.
En tout cas sincèrement qu'il faut réduire son exposition en France.
En France, et vous aimez bien la défense au Royaume-Uni, je crois. En préparant cette interview, on me disait, dans le contexte, pourquoi pas quitte à investir sur le Royaume-Uni, il y a des valeurs minières très fortes, mais aussi des valeurs de défense, et quitte à investir là-bas, pourquoi pas la défense?
On peut par exemple effectivement rester sur le secteur de la défense, mais peut-être compte tenu du fait qu'on va très probablement reculer sur un plan de construction européenne et d'Europe, alors que c'est évidemment sauf le bon timing pour faire ça. Et donc si on veut investir dans la défense, parce qu'on pense qu'il faut quand même augmenter les budgets et qu'ils vont quand même être augmentés, il faut on a meilleur temps désormais d'aller sur BAE System au Royaume-Uni, qui est un des leaders européens, mais qui fait beaucoup plus de business aussi avec les États-Unis et qui pourrait faire le lien entre les États-Unis et l'Europe plutôt que des acteurs nationaux allemands, français, qui pourront, a priori, n'auront pas les mêmes budgets en fonction du résultat des élections.
Cette question d'auditeur à l'instant sur notre fil XBFM Bourg, chacun peut s'y abonner, il s'appelle les tontons répliqueurs, il nous écrit souvent et on lui répond souvent, il a raison de nous écrire effectivement, il nous dit Intel et AMD, deux valeurs intéressantes, les deux Intel et AMD ont déclaré dernièrement avoir créé des GPU compétitives, bientôt proposées aux clients de Nvidia, manifestement le marché n'y croit pas, est-ce que le marché a tort, Franck?
Alors déjà, ce qu'il faut bien savoir avec Intel ou AMD, c'est qu'ils ne font que 25% de leur chiffre d'affaires, l'un et l'autre, hein, ça doit être 24 et 28%, dans les data centers, donc tout ce qui est serveur et donc dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle plus particulièrement. Donc le pari qui serait d'investir dans AMD ou Intel pour rattraper Nvidia, dans l'hypothèse où ils arriveraient à rattraper Nvidia qui est l'archi-leader et qui est le spécialiste et le pure player de ce métier-là depuis des années et des années, pour à la fin avoir une accélération que sur un quart de leur chiffre d'affaires, je pense que c'est pas le bon pari et qu'on a meilleur temps d'acheter du Nvidia directement.
Ce soir, Micron va publier ses résultats.
Ou du super microcomputer dont j'ai parlé juste avant.
Super microcomputer. Et ce soir, Micron, le géant des puces, là, en l'occurrence, va annoncer ses résultats après la clôture de Wall Street. C'est une valeur que vous aimez bien, en l'occurrence, Abdel.
Oui, on aime plutôt bien. Ça sera le premier test des valeurs d'intelligence artificielle après la prise de profit qu'on a eue la semaine dernière sur ces valeurs-là. On voit que le marché a quand même de l'appétit sur la publication, puisque Nvidia a plutôt bien rebondi, Micron aussi hier et aujourd'hui. C'est spécialiste d'une technologie qui s'appelle la technologie HBM, qui prend beaucoup de traction aujourd'hui, qui est très adorée. C'est une technologie qui permet de transférer rapidement des données en consommant très peu d'énergie. Donc on est plutôt positif sur Micron et on pense que la publication sera plutôt bonne et ça sera l'indicateur avancé, en tout cas, de la tenue du marché de l'IA et des publications à venir aux US.
À suivre après la clôture de Wall Street, la publication de Micron, on a aussi, Rivia, le spécialiste des véhicules électriques qui gagne 28% à Wall Street. Volkswagen annonce un investissement de 5 milliards de dollars. C'est quand même assez énorme dans une entreprise à parité avec Rivian, le spécialiste américain, plus 28% Rivian. Romain Dobry est toujours avec nous depuis Bourse Direct. Romain, Rivian, c'est une valeur qui, en bourse à Wall Street, offre encore beaucoup de potentiel, ou ça y est, là, on a, avec la hausse de 28%, fait l'essentiel de la hausse?
C'est très intéressant graphiquement ce qui se passe sur le titre. Il faut dire que depuis son introduction autour de 105, il était descendu en 2021, il était descendu à un support majeur à 8,84. Donc la recovery peut être importante aussi. Le fait est que depuis le mois de février dernier, la valeur a construit une structure de retournement haussière en épaule tête épaule inversée. Elle l'a validée très puissamment donc par l'annonce et la sortie haussière du jour en débordant 12,36. La cible idéale de cette figure, c'est dans un premier temps 17,08, on cote pour l'instant 15,31. Donc il y a encore un petit peu de potentiel sur cette impulsion haussière. Reste que les résistances suivantes sont à 19,10 et 21,90. Et surtout, si elle arrivait à sortir d'une structure d'épuisement dans la baisse, elle pourrait, au débordement donc de 19,10, aller chercher des extensions jusqu'à 27,60. Alors j'ai conscience, d'accord, que ce sont des cibles lointaines, mais il y a encore un peu de potentiel sur le titre. Manifestement, ça fait de l'ordre de 80%, je me rends bien compte, mais encore une fois, on part de très très loin.
Effectivement, ce titre Rivian qui avait beaucoup souffert. Encore une question d'auditeur, on s'emploie à répondre à vos questions. C'est Patrick, un de vos experts a récemment fait l'éloge de la société allemande SusMicroTech. Franck Morel, partage-t-il cette appréciation sur ce titre allemand? Faut-il y investir pour un horizon de 5 ans? Franck?
Alors, SusMicroTech, c'est un fabricant de semi-conducteurs, mais qui en fait fournit des machines qui elles-mêmes fabriquent. Donc, ils surfent clairement aussi sur la vague de l'IA, peut-être pas dans des proportions aussi fortes que les autres acteurs dont on a pu parler jusqu'à maintenant, mais c'est tout à fait. En tout cas, nos radars sont vert fluo sur SusMicroTech. Est-ce que c'est pour les 3 prochaines années ou pour les 5 prochaines années? On peut déjà se projeter à 3 ans et on verra. Entre-temps, la technologie aura fortement avancé et on verra si Nvidia et se fait disrupter et si on a d'autres technologies qui viennent remplacer. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de digitaliser le monde et donc il va falloir stocker de l'information, stocker de la data, il va falloir la calculer. Mmh. Donc tous les acteurs qui sont sur cette niche vont en profiter durablement.
Merci beaucoup messieurs. Franck Morel depuis Zone Bourse, Romain Dobry depuis Bourse Direct, Abdel Redjeb qui nous a accompagné, lui qui est venu en métro. C'est un peu compliqué parfois en métro avec les fermetures de stations liées aux Jeux Olympiques. Hein,
exactement, c'est un peu galère. C'est très pénible à part.
Merci d'être venu nous voir malgré tout, Abdel Redjeb pour Montségur Finance. BFM Bourse, c'est fini. Le CAC 40, on vous rappelle, ce soir a clôturé sur un repli de 0,7% dans des volumes de 3,5 milliards d'euros. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site bfmbourse.com, cet article consacré à Sanofi. Donc on va voir si Sanofi renonce à l'introduction en bourse ou pas de son pôle santé grand public. En tout cas là, Sanofi choisit de lancer un appel d'offres pour ce pôle santé grand public. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur notre application BFM Business, les replays de l'émission, notamment Igor Demac, c'était dans la Data Room. Igor Demac, dans la Data Room, nous disait être très positif, très optimiste sur le potentiel de la bourse de Milan. Il nous a apporté un certain nombre d'arguments et vous savez que le marché italien est éligible au PEA. Dans un instant, Guillaume Paul et ses experts. Good evening business. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.